France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et c'est la suite de nos grands entretiens spéciaux consacrés aux élections européennes. 8 têtes de liste sur 2 semaines se succéderont au micro de France Inter cette semaine donc et la prochaine avec Alexandra Ben Saïd et Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter. Nous recevons ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio de France Inter. Vous pourrez dialoguer avec les auditeurs dans une dizaine de minutes pour vos questions 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. L'Union européenne, Nicolas Dupont-Aignan, nous posons la même question à chacun de nos invités, est aujourd'hui contestée de l'intérieur, non seulement par des formations politiques, ça c'est classique, c'est ancien, mais désormais aussi par des gouvernements élus dans des États membres. De grandes puissances dominent le monde et affirment leur unilatéralisme. Il suffit de penser à la première d'entre elles, les États-Unis. Elles mettent en œuvre des mesures protectionnistes, elles critiquent, elles bloquent les instances de coopération internationale issue de la Seconde Guerre mondiale. Une construction comme l'Union européenne tremble sur ses bases. Elle connaît un certain nombre de turbulences. Certains redoutent sa fragilité. Et vous ?
Oh, je considère que l'Union européenne est illégitime depuis le référendum de 2005. Les Français l'avaient prévenu. Cette construction européenne, cette Union européenne a défiguré la belle idée de départ. Parce qu'on a besoin d'entente, on a besoin de paix, on a besoin de coopération. Et donc, cette Union européenne est en train de finir. C'est une longue fin pénible parce que les dirigeants européens ne veulent pas entendre les peuples, tout simplement. Et qu'est-ce que nous proposons, nous, à Debout la France, depuis des années? J'ai commencé avec Philippe Séguin. Nous proposons la seule Europe qui peut marcher. C'est l'Europe des nations libres. Et des projets concrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renvoie vers les nations le contrôle des frontières, la maîtrise des lois, du budget, mais qu'en revanche, on concentre l'action de l'Union européenne sur des projets scientifiques, humanitaires, technologiques, pour peser face à la Chine aux États-Unis. Car le grand paradoxe, c'est que depuis 20 ans, on a transféré tous les pouvoirs à des autorités non élues, commission, banque centrale, cour de justice, mais qui n'ont absolument rien fait pour peser face à la Chine aux États-Unis. Donc le faux discours disant il faut s'unir, il faut transférer plus de pouvoir, on sera plus fort, ne marche pas.
Alexandra.
Il faut concentrer, comme on avait fait avec Airbus, c'est une Europe intergouvernementale de coopération à peu de pays, thème par thème, et en revanche tout le reste, on le renvoie aux nations.
Alors justement, les nations, il y a l'Italie qui a un discours très fort, hein, et pourtant elle devient ce pays qui ouvre la porte à la Chine. Elle devient le premier pays du G7 à s'inscrire dans les routes de la soie. Elle vend en quelque sorte son port de Gênes. Est-ce que là, c'est pas un grand échec d'un discours souverainiste et qui
oui,
en réalité...
Ça, c'est un peu du folklore pour discréditer le gouvernement chinois, le gouvernement italien.
C'est pas la réalité.
C'est un fait, mais je ne suis pas favorable à ça. Je dis simplement que justement, c'est parce que l'Union européenne a affaibli l'Europe face aux deux superpuissances. Négociation des traités commerciaux, le CETA, toujours pas ratifié en France d'ailleurs, par le Parlement. L'abandon de toute politique industrielle, refus d'une politique industrielle. Le nivellement social par le bas, avec les travailleurs détachés. Donc si vous voulez, la réalité, est-ce que les peuples ont compris? J'étais encore dans la Sarthe à Arjo-Wiggins, une entreprise qui ferme parce qu'elle va être délocalisée en Pologne. Tous les jours, des artisans ferment leurs portes parce qu'il y a des travailleurs détachés qui payent pas les charges sociales françaises. Ce nivellement par le bas, cette destruction de la force européenne, elle explique, oui, que certains pays vont jouer leurs cartes tout seuls. Moi, je suis pas, contrairement à la caricature qui est faite de moi, je suis pas contre une coopération. Mais plutôt que de s'occuper de la taille des pommes, des concombres, des cuvettes de toilettes, de s'immiscer dans tous les domaines, si l'Union européenne avait lancé des coopérations en numérique, 3-4 pays, comme Airbus, comme Ariane, Espace, sur l'intelligence artificielle, sur la voiture propre, sur le panneau solaire de demain, sur la lutte contre le cancer, sur la politique africaine. Moi, vous savez, je pense qu'il faut 10 coopérations. Et tout le reste, on le renvoie aux nations. Parce qu'on ne peut pas vivre en démocratie quand on confie des pouvoirs à des gens qui ne sont pas élus.
Yaël.
Tout est confié à des gens non élus, commission, banque centrale, cour de justice. Ils ne sont jamais responsables de rien. Ils n'écoutent rien.
Yaël Gauz.
Pourtant, dans votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, on trouve une ligne sur Erasmus. Vous voulez en doubler le budget pour qu'au moins, je cite votre programme, 50% des étudiants et apprentis étudient dans un pays européen.
Oui.
Erasmus, c'est l'un des fondamentaux de la construction européenne.
Oui, mais je suis
vous êtes donc un souverainiste à géométrie variable?
Oui.
Mais à géométrie variable.
Oui, je l'assume. Mais moi, j'aime l'Europe différente. J'aime l'Italie parce qu'elle est italienne. J'aime l'Allemagne parce qu'elle est allemande. J'aime la France parce qu'elle est française. Je veux pas la purée de pois. Je suis gaulliste. Et je trouve très bien que les jeunes voient le monde et voient l'Europe. Je trouve très bien qu'on travaille ensemble sur des projets. En revanche, je refuse la disparition de la démocratie. C'est-à-dire des normes imposées par des gens non élus, par des gouvernements qui se couchent et qui en plus sont faibles. Car comme l'a dit très bien Régis Debray, à force de tuer les identités et les nations, l'Europe n'a plus d'identité et d'esprit national. L'Europe est devenue le ventre mou de la mondialisation. C'est ça la réalité. Et pourquoi les peuples, à chaque fois qu'ils ont le droit de vote, la refusent ? Est-ce que vous croyez que vous allez construire des coopérations sur des... contre les nations, contre les peuples, contre les identités.
Mais donc concrètement, vous acceptez, en voulant bloquer le budget européen, vous acceptez, en réduisant la quote-part française dans le budget européen, vous acceptez par exemple que nos agriculteurs touchent moins de la PAC.
C'est pas vrai. La France donnait en 2016 22 milliards à l'Union européenne. Elle a reçu 11. En 2017, le chiffre a été inférieur, mais ça remonte comme ça. C'est-à-dire 11 milliards par an net. Sous Jacques Chirac, qui n'était pas anti-européen, on donnait 2 milliards. Je veux assécher le budget de cette technocratie qui vit de privilèges, qui donne de l'argent à la Turquie, qui finance les délocalisations françaises, assez, au moment où on s'attaque aux retraités français, au moment où le pouvoir d'achat des smicards est si faible dans notre pays, je veux rendre l'argent aux Français sur les 11 milliards que l'on donne chaque année, net, je veux en rendre 9 aux Français. C'est tout. Et les agriculteurs auront toujours autant d'argent. Ça suffit de voir la France, ça suffit de voir la France payer une structure qui lui fait du mal.
C'est Bruxelles qui coûte 11 milliards? Non, c'est plutôt le financement de certaines politiques, de Galiléo, de projets communs.
Non, excusez-moi.
C'est aussi des fonds qui vont dans des pays de l'Est, comme par exemple la Pologne.
Ah, mais c'est très bien que nos usines aillent en Pologne et que nos ouvriers ne soient pas protégés. Maintenant, ça suffit. On ne va pas éternellement payer pour affaiblir la France. Je veux bien payer. Si c'est un projet sur le numérique pour faire un Google européen, je veux bien payer si c'est la lutte contre le cancer, mais avec des usines en France, comme Airbus, chacun sa part.
Et ça
suffit, cette solidarité toujours aux dépens des Français, qui n'en peuvent plus du chômage de masse, qui n'en peuvent plus des agriculteurs, qui ne peuvent plus vivre de leur travail, des ouvriers. D'ailleurs, je remarque que le milieu culturel bénéficie de l'exception culturelle. Et nous sommes sur France Inter, une grande radio de service public. C'est curieux, les intellectuels, les acteurs de cinéma... ont le droit à la protection culturelle, mais les ouvriers, les agriculteurs, ils peuvent crever.
Nicolas Dupont-Aignan, dire que vous voulez donner moins à la Pologne, par exemple, vous voulez siéger dans un groupe auquel appartiendra le
PiS. Mais ils sont d'accord, ils comprennent très bien.
Droit et justice, ils sont d'accord.
Mais ils comprennent très bien que la France ne peut pas éternellement financer à son détriment. On ne peut pas éternellement avoir une Europe déséquilibrée.
Donc vos alliés sont d'accord pour recevoir moins de l'Europe.
Bien évidemment. Et nos alliés sont d'accord. Nous avons 23 pays. Nous sommes la première fois qu'une force euro-réaliste négocie un tel partenariat. Sur un traité alternatif, on rend aux nations le contrôle des frontières, qui est le défi majeur. On rend aux nations leur argent, on rend aux nations leurs lois. Mais en revanche, après, on fait du partenariat à la carte, géométrie variable, thème par thème, pour muscler l'Europe face à la Chine, aux États-Unis. Car le grand défi est scientifique, il est technologique.
Mais vous allez la muscler ou la défaire? C'est ça, moi, que j'aimerais comprendre.
Mais
Nicolas
la muscler sur les domaines où elle est faible et où elle pourrait être utile, et la supprimer là où les nations faisaient très bien le travail avant. Les services publics, est-ce qu'on a besoin de vendre nos barrages? Est-ce qu'on a besoin de détruire la Poste, la SNCF? Parce qu'il y a des commissaires non élus et des intérêts financiers à Bruxelles? Une commission corrompue où les lobbies tiennent tout. On le voit sur l'environnement. Mais si la France a envie d'essayer une politique environnementale, pourquoi elle ne le ferait pas? Pourquoi tout concentrer à Strasbourg? Pourquoi tout concentrer à Bruxelles? Pourquoi pas laisser de l'air aux nations? C'est ne pas comprendre d'ailleurs l'histoire européenne qui est faite de
sur les travailleurs détachés. Sur les travailleurs détachés.
Je
reviens quand même sur ce dossier puisque les travailleurs détachés, oui. Il y a énormément de Polonais. Donc là, vos alliés aussi, par exemple, seraient capables d'entendre que vous ne voulez plus de travailleurs détachés.
Mais c'est pas que je ne veux plus de travailleurs détachés. Je veux que les travailleurs détachés qui viennent en France ne soient pas exploités et qu'ils payent les charges sociales françaises pour financer la sécurité sociale.
Donc vous êtes d'accord avec la réforme en cours?
Mais c'est pas la réforme en cours. Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Ce sont des promesses de Madame Loiseau de tout ce qu'elle a fait le contraire. C'est extraordinaire. C'est comme les Républicains, ils promettent, ils ont voté à Strasbourg tous les traités. Ils ont bafoué le référendum de 2005. Ils ont tout fait et maintenant ils nous disent non, non, ça marche pas.
Donc vous êtes pour les travailleurs détachés s'il y a une réforme?
Je suis contre les travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales françaises. Je suis pas contre qu'on puisse embaucher un Polonais s'il paye les charges sociales françaises parce que c'est de la concurrence déloyale. Comme je suis pas hostile à ce qu'il y ait des échanges à condition qu'il n'y ait pas de dumping fiscal.
Yael Gauz.
Pas de Frexit, pas de sortie de l'euro, a priori. À vous entendre, on a l'impression d'entendre aussi le Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du programme? Et pour que ce soit clair pour les Français le 26 mai.
Le premier point, c'est l'alliance du RN. Nous avons 23 pays, 23 partis politiques modérés, eurosceptiques, modérés. Nous travaillerons ensemble. Quand on vote Rassemblement National, on est isolé à Strasbourg. C'est un fait. Quand on va voter Debout la France, on aura des alliés. Deuxième point.
Vous voulez siéger dans un groupe unique souverainiste avec eux plus tard?
Non, nous avons un groupe déjà établi, 23 pays, pour peser à Strasbourg. Deuxième point.
Donc pas de groupe mélangé, c'est intéressant. Vous ne siégerez pas avec le RN à Strasbourg?
Nous verrons ce qui se passera. Mais juste
un point. Vous ne savez pas en fait.
Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais en tout cas, mais nous avons un groupe. Deuxième point, quand Monsieur Bellamy vote Macron au premier tour de au deuxième tour de la présidentielle et vote tous les traités avec les socialistes, les Républicains ont voté tout ensemble et soutiennent Monsieur Juncker avec les socialistes et En Marche, là-bas, à Strasbourg. Personne ne demande s'ils font liste commune. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on sache la vérité des alliances. Et à ce titre...
Ah bah justement, donc la vérité de l'après 26 mai, c'est quoi si vous êtes élu? Vous siégez, oui ou non, avec les eurodéputés RN?
Avec les 23 pays, il n'y a pas les députés RN qui ne siègent avec eux, les Autrichiens, la Ligue, etc. 5 ou 6 alliés d'un côté, 23 de l'autre. Mais je veux dire une chose. Dans cette campagne, il y a quand même un problème. C'est qu'on entend Madame Loiseau raconter exactement le contraire de ce qu'elle fait, notamment sur l'environnement. On entend Monsieur Bellamy raconter exactement ce qu'il fait, le contraire de ce qu'ils ont fait une fois voté, les socialistes pareil. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous le dis franchement, je regrette qu'on ne puisse pas participer à des débats communs, et notamment avec France Inter, votre chaîne, et je le dis très calmement, et France 2, qui organise un débat 4 jours avant le scrutin, où ils sélectionnent ce qu'ils appellent des grandes listes et des petites listes, ce qu'ils appellent des grands candidats et des petits candidats, 4 jours du scrutin.
Les mieux placés et les
moins bien placés. Ah oui. Et ce sont
qui
des...
Qui parleront avec une égalité, pour que tout le monde comprenne, qui parleront avec une égalité de temps de parole.
C'est complètement...
à deux moments différents
de
la soirée.
Alors, il y a la bonne, il y a la bonne période où il y a de l'audience et il y a celle où il n'y a pas d'audience. Et je vais vous dire quelque chose qui me choque beaucoup dans ce débat organisé par votre chaîne et celle de France Télévisions. Et qui est contraire à toute déontologie d'égalité 4 jours avant le scrutin. C'est que votre chaîne invite ou cache plutôt les candidats du Rassemblement National, des Républicains et de Madame Loiseau, qui n'aura pas le droit de parler. Monsieur Bellamy, Madame Loiseau et Monsieur Bardella ne parleront pas aux Français, c'est eux qui vont siéger à Strasbourg, mais les chaînes du service public payées par les contribuables vont inviter à grande audience Madame Le Pen, Monsieur Wauquiez, et ils vont cacher Madame Loiseau, je ne sais pas qui ils vont inviter, Monsieur Guérini. Ça veut dire que à 4 jours du scrutin, c'est comme si sur les panneaux électoraux, on mettait un timbre poste pour Monsieur Hamon, pour moi, pour Monsieur Lagarde, des gens qui ont des idées politiques,
ce ne sera pas
autant respectables,
êtes...
et qu'on mettait, excusez-moi, un 4
par
3, un 4 par 3 pour d'autres listes. C'est contraire à l'esprit de la loi électorale, et je fais recours, et nous ferons une conférence de presse avec Monsieur Hamon, car il est inadmissible que sur le service public, très sincèrement, il y a deux catégories de candidats, il y a deux catégories de listes. Il y a les petits Français et les grands Français. Est-ce que vous, qui êtes si attaché, Nicolas Demorand,
oui,
parce que je vous connais, je vous écoute, si attaché à l'égalité, si attaché à la diversité politique, comment vous pouvez, sincèrement, vous journaliste,
comment vous pouvez vous
livrer à une machination politique?
Vous êtes invité ce matin dans le 7-9 de France Inter, vous parlez à des millions de personnes.
Et je leur parle justement pour leur dire qu'il se passe quelque chose de très grave dans notre pays.
Vous êtes seul
très
au micro et on vous reçoit comme une tête de liste et nous recevons 8 têtes de liste et c'est tout à fait normal. On peut continuer ce débat si vous voulez, il nous semble simplement plus intéressant de vous entendre aussi sur le fond des choses,
mais
sur votre vision pour l'Europe, sur vos projets pour l'Europe. Donc voilà,
mais
en tout cas on vous reçoit vous le reconnaissez toujours avec respect et en vous accordant un temps de parole équivalent aux autres têtes de liste qui seront là aussi.
Nicolas Demorand, juste un point, après on en finit, on passe à autre chose.
Oui, et on parle du fond.
Depuis la présidentielle, Nicolas Demorand, et je veux que les auditeurs le sachent, j'ai eu 0,7% de temps d'antenne, le mouvement Debout la France, sur France Inter, 0,7%. Le Parti Socialiste a eu 11,8%. Les sondages nous mettent à égalité. À la présidentielle, Debout la France a fait 4,7%, le Parti Socialiste 6,4%. Je demande juste, Nicolas Demorand, Écoutez, que les chaînes du service public payées par les auditeurs permettent l'expression libre des
Nicolas Dupont-Aignan dans la concurrence égale. Dans la grande émission politique, dans la grande émission politique.
Et je regrette qu'à la grande émission politique.
De France Inter, vous êtes l'homme politique qui a été le plus invité.
Non, depuis.
Si, quatre non, fois. 0,7%. Quatre fois. Vous êtes Karine Bécart l'a dit, Ali Badou l'a dit également.
Ne vous trompez pas.
Les non, chiffres, je me trompe pas. Je
cite
un fait.
Après, on a fini. Je veux que les Français sachent que notre démocratie est faussé et qu'à 4 jours du scrutin, il est inacceptable que des chaînes du service public excluent 9 candidats en seconde partie et en gardent 6.
Nicolas Dupont-Aignan,
mettre en valeur
Il y a une vérité à établir sur ce que vous dites.
Et cache Madame Loiseau.
Et puis on avance.
Il y a une vérité à établir sur ce que vous dites. Le CSA demande l'équité des temps de parole. Dans l'émission.
Pas l'égalité.
Et l'égalité, c'est
extraordinaire.
C'est le choix que fait l'émission politique la semaine prochaine. Eh bien oui.
Donc, l'égalité,
oui, tout à fait.
En mettant 6 candidats et en cachant 3 têtes de liste.
Personne n'est caché. Si. Les chefs de parti participent à la campagne, eux aussi.
Parce que c'est pas eux qui vont siéger à Strasbourg.
Vous êtes les deux, chefs de parti et têtes de liste. C'est pas le cas dans toutes les formations politiques.
Que Monsieur Hamon puisse débattre avec Monsieur Glucksmann. Vous croyez pas qu'il aurait pu être utile que je puisse débattre avec Monsieur Bellamy?
Pour finir, il y a d'autres critères très objectifs qui sont pris aussi dans le choix de cette émission.
Idiots.
Il y a le poids politique, la représentation parlementaire nationale, la représentation parlementaire à Strasbourg, le niveau des sondages aussi. Il est vrai, reconnaissez-le, qu'il y a quelques semaines, vous étiez à touche-touche avec les LR. Aujourd'hui, vous êtes sous les 5. Que s'est-il passé, monsieur
Dupont-Aignan? S'il vous plaît.
Je suis à égalité avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est en respiration artificielle sur le service public, alors que Debout la France est boycotté.
Nicolas Dupont-Aignan.
En tout cas, s'il vous plaît, on va
parle
pas
au fond.
Il nous reste 6 minutes.
Il
nous reste 6 minutes.
Écoutons les auditeurs.
On est très heureux, et moi je tenais à vous dire et à vous redire qu'on est très heureux, Nicolas Dupont-Aignan, de vous avoir ici.
Et vous ne quittez pas le plateau, c'est bien.
S'il vous plaît. De vous avoir ici seul,
je vous
au
en
micro,
remercie, mais
et pendant le 25 ou 27 minutes, comme l'ensemble des têtes de liste.
Comprenez qu'on ait envie de débattre et que les Français ont le droit pouvoir poser des questions entre candidats. Oui,
Des Français sont au standard, et je leur donne la parole. Qui est là? C'est Christian. Bonjour, vous nous appelez de Bourges.
Oui, tout à fait.
Et on vous écoute, monsieur. Christian, bonjour.
Bonjour. Je voulais demander à monsieur Dupont-Aignan s'il ne pensait pas que les Français mériteraient mieux que de petits démagogues qui fleurissent en ce moment et qui font des promesses intenables qui distillent de fausses nouvelles à l'encan.
Merci
voilà.
Christian, vous mettez Nicolas Dupont-Aignan, notre invité, dans la liste, j'imagine.
Peut-être.
Il y a une hypothèse. Merci pour votre question, Nicolas Dupont-Aignan.
Écoutez, je crois que dans notre pays, les Français sont juges, et il y a un manque de transparence, il y a un manque de débat, et il y a des faits. Par exemple, vous devez penser aux chiffres sur l'immigration. Je vais vous dire une vérité, au dernier débat, 3 semaines avant, qui était juste sur votre antenne, où il y avait 12 candidats.
C'était pas très audible, à 12, d'ailleurs.
C'était très audible pour beaucoup de Français qui ont été très contents. Mm-hmm. Et ils ont pu comparer. J'ai parlé, par exemple, d'un chiffre, et je me suis trompé sur une année. 18 millions de migrants qui sont rentrés en Europe.
En 5 ans.
En 5 ans, et c'était 6 ans.
Mais c'était 9,6 millions, finalement.
Non, totalement faux. C'était 18 millions en 6 ans, et j'ai vérifié. Et 18 millions en 6 ans,
vous
c'est
la... Vous comptez les migrants hors Union Européenne,
oui,
et l'immigration, l'immigration à l'intérieur de l'Union Européenne.
Non, Union Européenne, hors Union Européenne, c'est qui arrive dans l'Union Européenne. Et vous pouvez vérifier tous les chiffres, j'ai vérifié 10 fois. 18 millions en 6 ans, ça est la taille des Pays-Bas. Est-ce que vous croyez que l'Europe est capable d'assimiler, quelle que soit la qualité des personnes qui arrivent, et je ne juge pas chaque individu, des phénomènes migratoires d'une telle ampleur?
Combien d'habitants au total?
500 millions. Oui. Ce que je dis très simplement, c'est que 18 millions de personnes tous les 6 ans qui arrivent, on ne peut pas les digérer, on ne peut pas les assimiler. Et il est normal que je pose des questions. Mais quand on donne un chiffre, quand on pose une question sur Notre-Dame de Paris, par exemple,
alors justement, l'enquête, qu'est-ce qu'il dit un mois après? Aucune trace d'hydrocarbures, pas de résidus explosifs, la piste terroriste s'éloigne. Pourquoi ça ne rentre pas dans votre scénario politique?
Pas du tout.
Il y a un mois?
Pas du tout. Il y a un mois, j'ai juste posé une question et je me suis fait accabler par l'ensemble de la classe politico-médiatique.
Question orientée, monsieur Dupont-Aignan.
Non, pas orientée,
bien sûr.
Non, scientifique. J'ai dit, c'est quand même curieux qu'un procureur de la République puisse dire que c'est une piste accidentelle, alors qu'il nous dit dans la même phrase qu'il y a au moins plusieurs semaines d'enquête. Et j'ai simplement dit ce que se posent tous les Français. Est-ce que c'est un attentat, ou est-ce que c'est un acte de malveillance, ou est-ce que c'est un accident? Et j'ai demandé une enquête indépendante, c'est tout. Et je me suis fait accablés. Ce qui veut dire que dans notre pays, on ne peut plus poser de questions.
Non mais vous, exactement la même chose. Quelque chose vous a été caché pour, dans l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est ce que vous laissez entendre clairement.
La réaction disproportionnée, hystérique du gouvernement à ma question interroge beaucoup de Français. Et nous voulons la vérité, c'est pourquoi je demande une commission d'enquête indépendante.
Sur les mots, Nicolas Dupont-Aignan.
Je demande
soit
une commission d'enquête indépendante.
Nous cache des choses, lesquelles soit...
J'ai de plus en plus sentiment, mais je demande une commission d'enquête indépendante parce que je suis pas juge.
Vous faites pas confiance dans les travaux de la police scientifique.
Ah, je fais confiance dans les travaux de la police scientifique qui a mis 10 jours avant de pouvoir rentrer dans la cathédrale. Et je fais confiance.
Les robots travaillent quand même.
Et je fais confiance, mais je fais beaucoup moins confiance au gouvernement. Et je demande une commission parlementaire, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Et je demande deuxième point, et je pense que c'est très important. Nous avons, avec Debout la France et d'autres partis politiques, le CNIP, lancé une pétition pour que Notre-Dame, lieu sacré, soit restaurée à l'identique. Restaurée à l'identique, car je pense que le geste architectural contemporain qu'imagine le président de la République n'a pas à être sur le toit de Notre-Dame, et que c'est une grande mobilisation qui doit avoir lieu. Mais c'est
alors,
pas le sujet des Européens.
Paul est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Bonjour, monsieur Dupont-Aignan.
Bonjour, monsieur.
Bonjour Monsieur Demorand, merci beaucoup à France Inter, c'est pas étonnant que vous soyez la première radio de France. Voilà, merci à toutes vos équipes.
Merci à vous.
Je souhaitais simplement interpeller Monsieur Dupont-Aignan sur le fait qu'il se réserve le droit, s'il est élu donc pour son mandat européen, de se retirer en fait en 2022 pour se présenter aux élections présidentielles. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il souhaite faire aboutir son projet d'Europe des Nations si en fait il s'en donne pas les moyens et qu'il va pas jusqu'au bout de son mandat. Voilà, j'ai plutôt l'impression d'assister à nouveau à une situation d'un politique, un homme politique qui souhaite un peu se présenter un petit peu...
Bien compris, Paul. Bien compris. Merci. Énormément de questions sur ce thème, application France Inter et Standard. Nicolas Dupont-Aignan.
Je me présente à l'élection européenne et je mène une liste de gens compétents. Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte en deuxième de liste. Benjamin Cauchy, gilet jaune pacifique. Des gens compétents parce que je pense qu'il faut aller au cœur du dispositif pour le démanteler et reconstruire une belle Europe des nations et des projets, c'est-à-dire réorienter la construction européenne. Premier point. Deuxième point, la meilleure façon de la réorienter, vous le savez très bien, ce sont les chefs d'État, et je ne vois pas au nom de quoi. Parce que je siégerai à Strasbourg, je n'aurai pas le droit, si l'occasion s'en présente, et c'est pas du tout décidé, on en est bien loin d'être candidat à une élection présidentielle. Madame Le Pen y a été, Monsieur Mélenchon, personne ne leur a reproché.
Ils se présentent pas à l'élection européenne. Ouais.
Ils étaient députés européens.
Ils le sont, présentés à cette élection.
Ils étaient. Donc, arrêtons les procès d'intention. Je propose une Europe gaulliste des nations et des projets. On est en démocratie. J'espère que les Français nous feront confiance.
On en reste là, Nicolas Dupont-Aignan. Le temps file tellement vite avec un invité. Alors imaginez si on avait été 34.
Pourquoi
en
inviter, c'est vrai.
Imaginez.
Restreignons à ceux dont vous avez
absolument
l'habitude.
Pas. Non,
on va faire
mieux.
Un débat à 34
c'est
mieux.
Vous avez été notre invité. Et j'espère que vous reviendrez à France
Mais
Inter.
J'espère.
Parler seul au micro.
J'espère.
Comme on le fait si souvent.
J'espère.
Merci encore et bonne fin de campagne.
Allez, bon courage à vous.